Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale.
Je ne suis pas, parce que je suis schizophrène, plus dangereuse qu'une autre personne.
Dès que je sortais effectivement de cette transe où je prenais du recul par rapport au miroir, je me regardais avec des yeux neufs, je réalisais, et là c'était hyper dur.
Depuis, je pense, petite adolescente, c'est sûr qu'il y avait une vulnérabilité, un terrain.
J'avais peur de faire souffrir tous les gens autour de moi, et surtout je ne comprenais pas la maladie. En France, elle est très méconnue.
Il ne faut pas croire que quand on est dépressif, tout est absolument noir. On a des fous rires, on a des rires, il y a des moments de bien-être aussi qui durent pas très longtemps, mais qui sont quand même présents. Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
Il s'appelle Christophe. Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Comme eux, 13 millions de Français sont touchés chaque année par un trouble psychique, d'après les tout derniers chiffres officiels. Alors c'est vrai, on parle désormais un peu plus de santé mentale dans les médias, sur les réseaux sociaux ou encore à la télévision. Mais il reste encore de nombreux freins qui empêchent de libérer la parole et peut-être même de sauver des vies. Alors ne perdons pas de temps. Je suis Clotilde Costil, journaliste et créatrice du podcast « On marche sur la tête » qui brise les tabous sur les maladies psychiques. Je suis ravie de vous accueillir dès à présent pour la saison 2, disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Installez-vous confortablement, tendez bien l'oreille et laissez-vous porter par ces histoires bouleversantes mais aussi pleines d'espoir.
« encore aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique est associé à une image teintée de mystère, d'angoisse, voire de danger dans l'imaginaire collectif. Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer, écrivains et dessinateurs, ont souhaité prendre le contre-pied de cette représentation fantasmagorique. Dans leur BD « Les âmes fendues », publiée aux éditions Stinkis en janvier 2024, ils offrent une immersion sensible et réaliste au sein du centre hospitalier Camille Claudel à côté d'Angoulême. En suivant le vol d'un papillon derrière les murs de cet hôpital, les deux auteurs dévoilent les rouages de ce lieu mal connu en offrant le point de vue des soignants, des soignés, des professionnels du travail social mais aussi des proches. Une fresque variée de l'accompagnement en et hors les murs. Sous couvert de ces planches de BD, Les âmes fendues est une véritable enquête au plus près de la réalité du terrain en psychiatrie. Pour s'y plonger, j'ai la joie de recevoir Jean-Luc Loyer, dessinateur. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Alors, j'aimerais qu'on reprenne la genèse de votre projet d'écriture qui, je crois, est né d'un hasard, celui d'une rencontre. Est-ce que vous pourriez nous la raconter, cette rencontre ?
Ça fait quelques années que je fais de la bande dessinée et avec mon camarade scénariste Xavier Bétaucourt, qui lui est journaliste. On s'est intéressé à plein de sujets différents, à la justice, aux hypermarchés. L'idée, c'était d'aller voir non pas dans les grandes lignes de faits divers ou de ce dont on parle à la télé, mais d'aller les voir dans le quotidien. Et on a fait plusieurs bouquins comme ça, et on a croisé du personnel de l'hôpital Camille Claudel qui voulait communiquer sur leur travail. Et ils nous ont demandé si on voulait faire un petit tour, aller voir si on pouvait un prospectus, quelque chose qui parlerait peut-être de leur démarche, de leur manière de voir la schizophrénie. Puis une fois qu'on était là-bas, on s'est dit, ça, il faut en faire un livre, il faut parler de ça aux gens, en fait.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris de la réalité de l'accompagnement en psychiatrie ?
La réalité, déjà, c'est que, comme beaucoup de gens, moi, je subissais, si je peux dire ça comme ça, les a priori et les choses qu'on voyait à la télévision. Pour moi, c'était un endroit étrange où on enfermait des fous. Pour vous dire, là, je vais être assez cru, je vais dire ça comme je voyais. Je caricature un peu, mais au fond, il y a un peu ça. Et puis, d'y aller, de rencontrer le dévouement du personnel, des gens, de rencontrer les personnes qui y sont, de voir que ces gens-là, c'était moi, c'était mes frères, c'était ma famille, c'était tous ces gens-là. Et comment on luttait contre ça, et comment on essayait de faire avancer le système et quel regard on pouvait porter sur ça. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré et puis on a commencé à découvrir des choses en fait.
Pour revenir sur le sujet de l'accompagnement qui nous réunit aujourd'hui, c'est une thématique qui est souvent représentée de façon uniquement médicale. Or, il est pratiqué de façon plurielle. Comment vous l'avez représenté ? Comment vous l'avez identifié ? Et quels sont les types d'accompagnement que vous avez rencontrés ?
Nous, on est allé un peu dans tous les services. D'abord, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnait cette petite ville qui est l'hôpital de Camille Claudel et comment ces gens-là faisaient pour écouter, entendre, voir, comment on partageait, comment on s'approchait des gens. Et après, comment on a fait ça déjà, c'était une vraie immersion d'être parmi eux, mais aussi des soignants. La difficulté, c'est d'être à la fois présent et puis se faire accepter. C'était la plus grande des difficultés. Et ensuite, les choses se sont faites tout seules. On a discuté avec les pères, les réunions pro-famille. On a fait juste que de raconter ce qu'on voyait, en fait. Tout simplement. Plein de choses qu'on ne connaissait pas et que finalement, peu de gens connaissent.
Oui, et justement, pour déconstruire encore plus ces préjugés, vous avez fait le choix d'intégrer le lecteur à l'enquête en vous effaçant, vous, auteur. Est-ce que oui, c'était vraiment fait sciemment pour déstigmatiser les troubles psychiques ?
C'était vraiment ça, justement de montrer quelle forme ça avait et aussi qu'on peut communiquer avec des gens... qui sont pas en bonne santé, qui ont des soucis, qui ont des problématiques, et comment on peut peut-être aussi, ben, je veux dire, s'en approcher, ne pas en avoir peur. Moi, c'est un peu ce sentiment-là que j'avais quand j'y suis allé. Je me suis dit, ben, enfin, c'est bête de dire ça, mais peut-être que ça va être dangereux, peut-être que les gens vont pas vouloir parler, et puis de se rapprocher de tous ces gens, ben, de s'apercevoir qu'il y avait encore des tabous autour de ça et qu'on n'osait pas en parler parce que ben la société mettait une sorte de carcan sur ça et qu'il fallait combattre, ouais, fallait sortir un peu d'une espèce de je vais pas dire de honte, mais d'a priori qu'on avait tous. Je crois que c'est vraiment la chose. Qui a été une vraie découverte pour moi, au fond, et que les choses bougent pas mal, à mon avis, pas assez vite. En tout cas, il y a encore des gens qui luttent pour faire ça. C'est difficile. Je suis très dans le sentiment entre Xavier et moi, vrai journaliste de terrain qui va prendre des faits, des événements, qui va noter ça, et des vraies listes et des approches. Moi, je suis plus dans l'humain, donc j'étais plus dans ma profession d'artiste, j'allais. Pour communiquer avec les gens.
Et quelle belle surprise en particulier vous avez pu avoir, au contact de ces personnes?
C'était une de mes, je ne vais pas dire une de mes conditions, mais c'était un de mes souhaits. C'est de dire que si je vais dans un rencontre du monde, je vais parler de ce que je fais, je vais écouter ces gens qui vont me dire qui ils sont, ben moi je vais aussi leur raconter qui on est nous et qui je suis moi. Et de m'apercevoir, mais ça je savais, j'avais déjà pratiqué ça, mais que le dessin parfois aide à se rapprocher et puis à communiquer d'une manière un peu étrange au-delà des mots, et puis avoir les mêmes centres d'intérêt ou la même envie de découvrir. Là, pour le coup, la bande dessinée, le dessin, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, on a rencontré des gens aussi qui pratiquaient des activités de graphisme, de dessin, de danse, de peinture, de musique. On a vu que l'art, d'une manière générale, était quand même quelque chose de très, très important.
T'as un bon médiateur finalement. Et justement, comment rendre compte de ce sujet-là qui est si complexe à travers le dessin?
Ben c'est difficile parce que il y a une forme d'intimité. Nous, on n'est pas là pour montrer des bêtes curieuses ou même des soignants de telle ou telle manière. Nous, on est là pour montrer une démarche, pour montrer une humanité, pour inviter les gens à comprendre. Du coup, on n'était pas dans la représentation. Moi, j'ai dessiné des acteurs qui jouaient des rôles, en fait, et qui essayaient de restituer des gestes, des postures, qui nous racontaient des vies. En fait, tout est vrai dans ce livre. En même temps, tout a été réinterprété, tout a été redessiné pour qu'à la fois on puisse s'y reconnaître et que personne puisse s'y reconnaître vraiment, en fait. C'était vraiment la grosse difficulté du livre.
C'est ce qu'on appelle la BD reportage dont vous êtes spécialiste, je crois.
Oui, on peut dire, oui, on fait des reportages. En tout cas, on fait c'est un peu. Mais moi, l'idée, c'est de pas de chercher le spectaculaire. C'est le spectaculaire, on nous le vend assez à la télé, et à mon avis, pas de la bonne manière. Nous, on cherchait le quotidien. C'est le petit déjeuner, le repas, le lever, le coucher, les discussions avec les malades, aussi ben, les discussions avec les soignants, comment eux percevaient leur métier, comment ils percevaient la société, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qui va pas. Après, aussi être dans les états d'âme de tous ces gens, et puis aussi. Ben, s'approcher un peu de moi, c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est cette folie qu'ont les artistes et de la retrouver aussi chez des gens, chez plein de gens, et puis de me poser la question, mais qu'est-ce que c'est d'être hors norme? Qu'est-ce que c'est que de pas être normal, entre guillemets? Et moi, je me suis souvent reconnu, comme Xavier aussi, comme quelqu'un de pas normal, en fait, finalement, avec mon obsession de raconter.
Merci pour le partage, Jean-Christophe. Ça nous permet de visualiser un peu plus l'intérieur de la BD. Vous diriez qu'on est tous, toutes et tous, des âmes fendues, comme le dit votre titre?
Je crois, j'en suis persuadé. Après, ben, c'est une histoire de gestion de douleur, de tristesse, d'état d'âme ou même de joie, moi je dirais ça, et de perception du quotidien. Et oui, le titre, il n'est pas là par hasard, et aussi le symbole du papillon. On a tous nos petits papillons avec nous. D'aucuns en ont beaucoup et ont du mal à les gérer, et d'autres les gèrent facilement. Parfois, ils sont omniprésents. Et puis, à Camille-Claudel, il y avait beaucoup de papillons, moi, je crois, qui s'entrechoquaient. C'est un peu ça. Je ne fais pas dans la fausse naïveté, parce qu'il y a aussi des moments très durs, on raconte ça aussi, hein. Mais c'est empreint de tout ça, justement, à la fois de choses dures et difficiles, des gens qui nous ont raconté des parcours mais incroyables, et aussi des choses légères et jolies, et découvrir une humanité partout. Aussi, moi, je suis toujours admiratif des soignants parce qu'on se plaint toujours que les choses vont pas. Je ne suis pas un béni oui, mais il y a quand même des gens pas mal sur cette planète. Autant quand on l'a fait au palais de justice, on l'a fait dans les usines, etc. Ben, on en a rencontré de jolies personnes avec de jolis papillons, si je pourrais dire.
Et au contraire, quelle a été votre plus grande difficulté dans la réalisation de cet ouvrage?
La plus grande difficulté, ouais, il y a des fois, moi, j'ai pas trop l'habitude de vivre au quotidien la détresse de certaines personnes. Et une détresse qui est tellement enfouie, difficile à définir. Et ça, parfois, c'était un peu difficile de rencontrer des gens abandonnés. Moi, ça m'a un peu vraiment fendu le cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont rien, qui ont plus personne, en fait. Je crois que c'est la plus grosse des problématiques. Et qui, finalement, sont pas des âmes fendues, sont des âmes perdues. Et moi, parfois, parce que ça me renvoyait peut-être à des choses de ma vie à moi et de ma famille. Mais ça, c'était des choses assez difficiles parfois de sortir de ça, en fait.
Alors, l'interview touche à sa fin. Est-ce que vous auriez un dernier mot avant de rendre le micro à Élise?
Non, non, non. Enfin, un dernier mot à dire, c'est que j'espère que... Bah, enfin, c'est tellement bête à dire, mais... notre pays va avoir un vrai regard sur ce qui s'y passe et pas abandonner ce qui s'y fait. C'est bête de dire ça, surtout ici, à vous qui m'écoutez, mais d'aller voir ce qui s'y passe et de pas ralentir ça, et au contraire, de faire que les gens puissent. Alors là, je suis dans la totale amour épée, mais de continuer que les gens puissent continuer à se parler et à s'écouter. C'est bête comme chou, mais c'est tellement important dans ce genre d'endroit, à mon avis.
Je pense qu'on partage tous votre avis. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce beau témoignage et cette présentation. Je crois qu'il est l'heure pour moi de rendre le micro à Élise. Merci, merci à tous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.